un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire qui commence mal, il faut bien l'avouer. Au départ, il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer de pire qui pèse sur les épaules de cette femme. Elle est abandonnée puis baladée, victime puis coupable, incarcérée puis libérée. Et c'est un chemin que semble prendre sa propre fille, comme un destin de femme, un trauma en héritage, une punition qui se répète, quoique sous d'autres formes. Et puis quelque chose prend corps, une forme obscure, une volonté puissante d'échapper à ce destin tout tracé, de sortir sa fille de la fatalité, de la sauver. Et c'est alors que sa détermination se déploie dans toute son étendue, sa patience, son endurance, sa résilience. Elle pense aussi, elle change d'avis, de plan, consulte, s'active, insiste. Elle ne renonce pas, elle ne lâche rien. C'est une histoire qui commence mal, il faut bien l'avouer, mais si vous prêtez l'oreille, je vous promets que vous serez surpris et heureux de cette aventure folle et édifiante qui en dit long sur le courage des femmes et l'amour des mères, par Claudia Prolongeau.
Je m'appelle Jennifer Payet, donc je suis maman de 3 enfants. J'ai 35 ans aujourd'hui et j'habite à Toulouse. Je suis native des Pyrénées, j'ai grandi plutôt sur la région de l'Aquitaine, puisque mes parents se sont séparés quand j'étais très très jeune. J'ai été placée aux environs de 11 ans en foyer, plus ou moins à ma demande si je puis dire, parce que j'étais victime des incestes du mari de ma mère. C'était trop dur à accepter pour moi, puisque cet homme dans mon enfance avait été un papa idéal. Donc c'était beaucoup d'ambivalence et d'incompréhension et d'appel au secours pour ma mère qu'elle n'avait pas l'air de vouloir voir, je pense. Du coup, j'ai grandi en foyer. Et puis après, je suis partie sur Bordeaux. Et là, ça a été des foyers d'urgence, puis après des prises en charge hôtel. Et j'ai fini par intégrer un foyer maternel à 15 ans, quand je suis tombée enceinte de ma fille. C'était donc une grossesse pas forcément désirée, mais pour laquelle j'ai jamais douté de la garder. J'ai appelé ma fille Asia. J'avais 16 ans, quand elle est née. Son papa, c'était un Marocain qui avait été mon premier petit copain. Il était sans papier. C'était à la base mon dealer de shit, donc c'était compliqué. Je sais que j'ai gardé ma fille parce que j'avais pas de famille. Donc ça a été une façon de me la créer. Mais parallèlement, j'étais pas prête à être maman. Le foyer maternel, c'était bien. C'était un lieu de recueil et tout, rien à dire, un point d'ancrage. Mais on m'a pas forcément orientée sur une orientation professionnelle, sur une insertion dans la vie active, même sur le logement, etc. etc. Donc quand j'ai eu 18 ans, on m'a virée. Et ensuite, ma fille a été placée par intermittence pendant plusieurs années, en fait. Et le dernier placement de ma fille, quand elle est petite, elle a 4-5 ans, là, je rencontre l'héroïne en 2006. Puis se passent des années, en fait, et ma vie avance, quoi. Je me sors de tout ça, et en fait, en 2019, je prends une révocation mise à exécution de cette période-là, en fait, et c'est là que je me retrouve incarcérée. Au moment où je rentre en incarcération, je suis encore en contact avec ma fille, qui à l'époque a 14 ans, et elle est sur la région parisienne dans un foyer d'urgence, puisqu'elle a demandé à partir là-bas. À ce moment-là, je sais pas que c'est pour un garçon, je sais juste qu'elle demande à aller à Paris, genre pour se rapprocher de son père. Et je comprends encore moins, puisque son père, elle veut pas le voir et que son grand-père l'a incesté quand elle avait 11 ans. Et en fait, quand elle va faire cette demande, juste avant que je rentre en détention, je vais avoir un lâcher-prise, en fait. Je la laisse partir. 3 jours après ma date d'incarcération, je commence les premiers appels envers ma fille, donc ça sonne, elle répondra jamais. Et au bout de 2 semaines, je crois, même pas 10 jours, son numéro n'est plus attribué du tout, en fait. Donc je me rapproche de ma conseillère d'insertion et de probation. Et puis c'est après, en fait, que j'arrive à contacter des amis qui sont dehors, que je vais les faire se connecter aux applications de ma fille et qu'ils vont me dire avoir vu des annonces de sites d'escorting. Sur le coup, je l'entends, mais c'est pas possible, ma fille fait pas la pute, quoi. Enfin voilà, en gros, c'est comme ça dans ma tête. Mais je vais les recevoir par voie de courrier et je vais donc me confronter à des captures d'écran de l'écran sur lequel on voit ma fille. On dialogue avec ces hommes, notamment certains qui sont dénudés, qui envoient les parties intimes de leur corps. Enfin voilà, je vais vraiment la voir en pleine face. Et là, en fait, je comprends pas. Sur le coup, je comprends pas, je suis dégoûtée. Mon enfant, mon bébé, ma fille, fait la pute. Donc sur le coup, les premiers jours, c'est du dégoût. Je crois que j'ai que du dégoût. J'ai même pas de colère. Je suis écœurée, je vomis. En fait, mais j'en ai vomi, c'était viscéral, quoi. Je me dis que je la reverrai plus, que je la toucherai plus, que c'est plus ma fille qui me dégoûte. Enfin, vraiment, c'est affreux. Au début, je saisis rien les premiers jours. Par contre, une fois que la pilule passe et que j'avale la couleuvre, là, franchement, je commence à contacter en premier sa référente, puisqu'il y a un placement. Je passe ma haine sur elle, en fait. Parce que comment c'est possible qu'il se passe ça alors qu'elle est sous votre responsabilité? Ils ont pas l'air d'être au courant. J'en réfère un peu plus haut au juge des enfants. J'essaye en fait à ce moment-là de commencer à rentrer en contact avec les acteurs autour de l'accompagnement de ma fille. Il se passera pas grand-chose en fait. La référente, elle me répond régulièrement. Et je pense qu'elle est en incapacité d'agir en fait. Pas parce qu'elle le veut pas, mais parce que c'est fait comme ça. Ce système est fait comme ça. Le juge des enfants, j'aurai jamais de réponse. J'en viens même à lui envoyer des courriers pas loin de l'outrage. En me disant que s'il me met un outrage, c'est qu'il m'a lu. Parce que je doute même qu'il me lise, en fait. J'écris à la direction de la prison pour demander à être visitée par une brigade et déposer plainte, puisque ma fille a moins de 15 ans. Je verrai jamais de brigade. Quand je reçois ces courriers avec les captures d'écran de ma fille, etc., les surveillantes, elles n'ont même pas une hausse d'empathie à mon égard. Je vais entendre des phrases du style... que dans la vie, il y a quelque chose qui aurait été bénéfique, ça aurait été d'être une mère. Ça va être hyper compliqué, franchement. J'en arrive à écrire à tous les acteurs possibles, inimaginables, contrôleurs des lieux de privation de liberté, défenseurs des droits. Et plus, en fait, je fais ça, et plus ma détention est difficile. Mes courriers, normalement, ils ne devraient pas être lus par la détention, puisqu'il y a un vague-mestre qui est censé les contrôler et non pas des surveillantes pénitentiaires. Donc je vais même faire des recours à l'observatoire des centres pénitentiaires de façon à ce que mes courriers soient pas lus par les surveillantes qui se permettent derrière de m'envoyer des pics et qui, moi, me donnent envie de leur rentrer dedans, parce que ça complique aussi ma détention. Du coup, je me retrouve dans deux combats, celui de ma fille et celui de mes droits. Et c'est hyper compliqué. Je vais même aller jusqu'à... En cours de sport, je vais taper une détenue. Je me dis qu'elle va porter plainte. Comme ça, les flics, ils vont venir, ils vont m'entendre. S'ils m'entendent pour cette plainte où je fais juste un croche-patte à la con, pourquoi ils m'entendraient pas pour déposer plainte pour la disparition inquiétante de ma fille? Et donc, quand je suis sortie de ma cellule pour venir être entendue par la brigade, j'ai aussi pris le dossier qui concernait ma fille. Donc la première chose, c'est leur dire que oui, je reconnais et leur expliquer pourquoi je l'ai fait. Et en ayant tout le temps la main sur ce dossier et en leur demandant de bien vouloir faire ce qu'il y a à faire là-dessus, je leur donne les photocopies de tous mes courriers avec accusé de réception au parquet, que j'ai saisi le proc en demandant d'être visité par une brigade. Je leur fais part de l'inertie de toutes les institutions ou de tous les professionnels compétents autour de moi. Franchement, je suis au bout de ma vie, quoi. Mais non, ils prendront pas ma plainte parce qu'ils sont pas là pour ça. Alors, je me rends compte de tout ça, c'est en mai 2019 et je vais sortir de détention en mars 2020. Quand je sors de détention, je suis sur une prise en charge hôtel, puisque déjà j'ai plus rien dehors. Je récupère mon petit garçon qui a 7 ans à l'époque et qui va dormir avec moi dans cette chambre d'hôtel qui ressemble à une cellule. Et à ce moment-là, je suis contente de retrouver mon fils, mais j'ai besoin de retrouver ma fille. Donc je vais commencer à créer des comptes sur OneNance. Je vais faire des comptes masculins, bien sûr. C'est pas compliqué de mettre une photo de profil, hein. Il me suffit d'aller sur Instagram et de regarder un bodybuilder ou un mec qui fait du sport pour avoir rapidement un torse à prendre. Je vais utiliser ces torses-là que je vais mettre en photo de profil. Et donc je vais, de cette façon-là, rentrer en contact avec ma fille. Je reconnais son corps sur les photos et le numéro de téléphone qu'elle utilise pour les annonces tarifées. Donc, je sais pas, moi, elle peut dire exercer, par exemple, à Fontainebleau. Donc du coup, il y a des photos de profil avec des détails sur la photo. Ça peut être le lit, les tables de nuit, si c'est la salle de bain, de la faïence ou autre. Et en fonction du lieu où se dit exercer la passe, je vais chercher sur Airbnb ou sur les appart-hôtels avec les photos des lieux pour retrouver ce lieu dans lequel a été prise la photo de ma fille. J'y arrive plusieurs fois. Quand c'est les hôtels, je me déplace, je vois les réceptionnistes, mais qui me donneront jamais de réponse et qui auront même plutôt des tempéraments menaçants. Quand c'est du Airbnb, je fais une réservation sur le délai d'après pour avoir la possibilité d'obtenir le contact du propriétaire. Je l'appelle, mais il me donnera jamais de réponse non plus sur l'identité qui a réservé la réservation de la semaine qui m'intéresse. Donc souvent, c'est des échecs, puisqu'après, le temps que je me déplace ou autre, elle n'est plus là. Donc du coup, je vais appeler la police avec le 17, comme ça c'est la police de secteur qui répond, je leur explique où je suis, pourquoi je suis là, la déclaration de fugue de ma fille, la disparition inquiétante, la suspicion de prostitution. Et à chaque fois, mes interlocuteurs sur le 17 ne sont pas réactifs. Ils me demandent comment je peux affirmer ça et ne cherchent pas à y mettre fin en fait, puisqu'ils ne se déplaceront pas. Après, je vais en arriver carrément, une fois que j'arrive sur les lieux, que j'ai retrouvé, à prendre quelqu'un dans la rue et à lui filer 50 balles pour qu'il appelle à ma place et qu'il y ait une voix d'homme qui puisse se faire passer pour un client, ce qui me permet d'obtenir la chambre. Et de là, pareil, je vais me déplacer, sauf que toujours réceptionniste, ils m'ont jamais donné renseignement. Il y a des fois où quand je l'ai identifié, je ne l'ai pas vu, mais par contre, j'allais au commissariat de secteur avec mes dépositions et mes PV de Toulouse ou autre, et je venais signaler les faits. Je leur fournissais les captures d'écran, je leur fournissais les échanges de messages, les photos du lieu, ma réservation justement qui me permettait d'avoir les contacts du propriétaire et les photos cohérentes qui montrent que c'est le même lieu. En fait, je fournissais tout à chaque fois. Donc je partais de Toulouse, je sais pas moi, 19h, 20h, une fois que mon fils avait mangé, de toute façon à ce qu'il dorme sur la route. J'arrivais dans la nuit, et la nuit, c'est là où se passent les passes. En vrai, le matin, elle dort. Donc j'arrivais sur des moments où il y avait quand même des va-et-vient et où j'arrivais à me confirmer que j'étais dans le vrai. Mais comme les flics n'intervenaient pas, en général, je finissais par faire déjeuner mon fils avant que la brigade ouvre à 8h30. Et je faisais une déposition avant de partir. Et à chaque fois que j'ai fait des dépositions, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas l'autre partie du dossier, que territorialement, ils étaient incompétents. Souvent, on me répondait qu'ils n'étaient pas en charge du dossier, qu'ils ne pouvaient pas aller voir sur place malgré mes dépositions puisqu'il n'y avait pas de flag, qu'il fallait que le parquet accorde une perquise. Il y avait toujours, en fait, toujours une excuse. Et on m'a des fois fait remarquer que mon fils qui était présent était jeune et n'avait rien à faire là, et que si je rentrais pas chez moi, ce serait dommage qu'on me fasse un signalement de mise en danger sur mon fils. Entre le mois de mars 2020 et le mois d'octobre 2020, je repère ma fille à divers endroits de la France et je réitère mes actions plus d'une dizaine de fois, sans aucun résultat. Du coup, en vrai, c'est plutôt mes amis en fait qui vont m'aider. Donc, en mai 2020, une fois que j'ai localisé le lieu, qu'ils ont appelé, qu'ils sont fait passer pour un client, qu'ils ont eu la chambre, etc., ils prennent ma fille, ils la sortent de là, ils l'éloignent, je la récupère. Du coup, je la redescends avec moi sur Toulouse et elle est dans un très mauvais état de santé. Je la fais d'abord consulter aux urgences, je fais faire des expertises médico-légales. Après, je lui fais des soins, bien sûr. Mais j'axe déjà la procédure. Je vais avec elle au commissariat et on fait les dépositions ensemble. Et la procédure est en cours. Et cette fois-là, en fait, quand je la récupère, elle a un téléphone avec elle. C'est la seule fois, d'ailleurs, où elle aura ce type de téléphone dans lequel sont tous les échanges WhatsApp avec les clients et autres. Donc je vais prendre ce téléphone, je vais le fouiller, je vais trouver des échanges entre elle et son pseudo petit copain qui en réalité est son proxénète. Je vais la questionner dessus et c'est là qu'elle va me dire qu'elle l'a rencontré en colo, etc. Donc elle est tombée amoureuse de ce mec qui s'appelle Brice. Et si elle a voulu partir en foyer, c'était pas pour être près de son père, mais c'était pour se rapprocher de Brice, qui lui aussi avait été placé en foyer. Mais au début, en fait, elle me dit pas que c'est lui qui la prostitue. Elle renvoie sur d'autres garçons. En fait, elle en invente. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle acceptera de venir avec moi au commissariat et qu'il y aura tant de dépositions différentes. C'est qu'au début, elle transforme la réalité, parce qu'il y a cette emprise, cette dépendance, cette toxicité, tout ce qui fait que, ben, en fait, elle veut encore être avec lui. Il l'a tellement isolée pendant longtemps de toute sa famille et de tous ses proches que, ben, elle ne voit que par lui. Il a eu même le contrôle de son alimentation, de ses tenues vestimentaires. En fait, il est tellement dans le contrôle et dans l'emprise que, ben, qu'elle ne sait pas vivre et s'inscrire dans autre chose. Mais vraiment, j'en ai pas conscience cette fois-là. Notre relation, elle est bonne, mais elle est froide, distante. C'est compliqué. Elle ne vit que dans un lit. Elle n'arrive pas à s'intégrer dans les autres pièces. Elle pose pas vraiment de mots sur toute la barbarie qu'on lui a fait. Elle me donne pas d'explications. Elle va faire des crises par moment. Elle va s'arracher les cheveux. Elle va se rouscarifier. Enfin, il y a quand même des moments hyper difficiles. Mais oui, c'est pas des mauvaises relations au final. On n'est pas en guerre, quoi. Et en fait, elle restera avec moi pendant quelques semaines. Ben, on refera sa vêture, on fera les soins de santé, on fera une trithérapie préventive. Voilà, la gale, elle a une gingivite nécrosée aiguë, elle a une tuberculose latente. Enfin, franchement, elle est en état de serpillière, quoi. Et petit à petit, pour moi, elle est sauvée. En fait, dans ma tête, c'est ça. C'est vu que dans l'état où je l'ai récupérée, j'ai pas conscience qu'elle va vouloir repartir. Ça m'est impossible, inenvisageable en fait. Donc je me méfie pas. Et donc, quelques temps après, très peu, hein, je crois 2 semaines, 3 semaines, c'est la première fois que je la laisse sortir toute seule et que je lui permets d'aller faire les courses au Lidl qui est à côté. Et quand je vois qu'elle arrive pas, je lui écris, elle me répond, elle me dit « Ah mais je suis dans telle rue, je crois que je me suis perdue en fait ». Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, je tourne la tête et je vois qu'en fait, il y a plus de vêtements et plus de maquillage dans ses affaires et c'est là que je comprends qu'elle est partie. Donc, panique à bord, je suis partie à la gare. J'ai fait toute la gare, je ne l'ai pas trouvée. Il y avait 3 trains à destination de Paris. Je choisirai un train au hasard, c'est le premier qui part. Donc je monte dedans, elle n'est pas dedans. Du coup, il reste 2 trains. Sur Paris, je trouverai des gens qui vont sur ces 2 gares d'arrivée. Sauf qu'en fait, il y avait un autre train avec une correspondance qui fait qu'elle arrivera sur une gare où j'avais mis personne. Donc voilà, elle est repartie. Elle est partie à Paris rejoindre ce mec, ça j'ai pas de doute. Puis après, il se passe d'autres fois où j'arrive à la récupérer, mais elle ne veut pas monter dans ma voiture, j'arrive à la faire monter de force, je suis obligée de l'attacher. Sur les aires de repos, elle est capable d'essayer de partir, elle me frappe, elle m'arrache les cheveux, elle m'insulte. Et là, c'est hyper compliqué, là, c'est vraiment, il n'y a plus de relation du tout. Parce qu'elle me voit comme l'empêcheuse de tourner en rond, celle qui s'oppose à cet individu. Et c'est ce qui fait qu'en octobre, en fait, je vais user différemment du stratagème. C'est que j'ai compris qu'en fait, elle a bloqué. En fait, elle veut plus de moi. Tout ce qui viendra de moi, elle est réfractaire. Du coup, bah, je vais re-rentrer en contact avec la famille d'accueil chez qui elle a tant vécu. Je vais aller la voir, je pousse son portail et je pleure dans son jardin parce que, bah, il fallait que j'échange avec elle de ce qui se passait. En plus de ça, bah, tout le monde me dit de laisser tomber puisqu'elle est réfractaire et que c'est ce qu'elle veut. Mais de l'autre côté, moi, je me rappelle de ma fille d'avant. Eux ne la connaissaient pas avant et j'ai besoin de quelqu'un qui a connu ma fille comme elle était, donc Christine. Ben, elle va m'aider, elle va essayer de rentrer en contact avec Assia, ça va marcher. Et à ce moment-là, Assia a une pyélonéphrite, donc du coup quelque chose de dangereux aussi. Puis comme elle est déclarée en fugue, elle ne peut pas se soigner. Donc elle acceptera l'aide de Christine, qui la conduira à l'hôpital et qui fera en sorte qu'elle soit retenue à l'hôpital du secteur jusqu'à que j'arrive. Et donc cette fois-là, en fait, en venant, j'avais déjà décidé de venir sous un autre axe parce que mon but, c'est de recréer un lien qui est primordial et qu'elle rentre avec moi. Donc cette fois-là, quand je rentre dans sa chambre, je ne vais pas toucher son téléphone et je vois que la première chose qu'elle fait, c'est vouloir l'attraper, donc je ne vais pas le casser. Je vais essayer de me positionner autrement et je vois son ventre qui est rond. Je savais déjà qu'elle était enceinte, ouais, mais je ne l'avais pas vue. C'est compliqué. Cette fois-là, ça a été waouh. Tout ce temps-là, moi, je me fais accompagner par un psy, parce que c'est dur. Après qu'elle soit repartie en mai-juin, il y avait eu une première déposition. Donc à ce moment-là, en fait, Brice change d'optique. Il essaye de faire en sorte que ma fille, là-bas, fasse des contre-dépositions, etc. Donc en fait, il retourne la situation. Il commence même à m'envoyer des vidéos de ma fille en train de lui faire des fellations ou autre pour me montrer que ma fille est consentante. Enfin, franchement, je commence à avoir des choses affreuses. Et du coup, je voyais un thérapeute à ce moment-là qui m'expliquera que si je l'enferme, elle voudra partir. Et donc, en fait, il me fait prendre conscience de qu'est-ce que l'emprise. Je vais pas mal me documenter là-dessus. Et donc, du coup, quand en octobre, je change d'approche, je décide de lui faire croire que j'accepte les choses pour plus qu'elle parte. Et je vais essayer d'avoir, moi, une emprise bienveillante sur elle. Je vais lui faire croire que je respecte ses choix, même si je tolère pas cet homme. Je vais poser des limites dans le sens où elle peut partir si elle veut, mais elle peut aussi revenir et je lui laisse les clés de la maison. Elle peut parler avec lui, mais pas devant moi. Et puis, petit à petit, je vais passer beaucoup de temps avec elle. Plus elle va s'ouvrir et me faire part des choses, plus j'essaye de pas me braquer et d'être catégorique sur cet individu-là. Je vais lui dire que cette relation, un jour, elle est possible, mais que d'abord, il faut qu'il répare et qu'on peut pas réparer sans avouer, etc., etc. Enfin, je vais vraiment y aller comme ça longtemps, au point d'aller même jusqu'à accepter de parler avec lui. Je vais avoir des échanges en visio avec lui et sa mère. Je vais projeter le mariage de nos enfants. Enfin, je veux dire, ouais, c'est... Je me perds moi-même, en fait, parce que si j'avais pas eu ce thérapeute, je crois que je serais perdue. À chaque fois que j'échange avec lui, c'est viscéral, je vomis, je peux pas. Je me sens mal. J'arrive à aller chez le psy 3 fois par semaine. Et en fait, c'est ce qui va payer. Puisqu'elle va se livrer et arrive le moment où elle va accoucher. Calvin naît en janvier 2021. Elle accouche à 16 ans. Et c'est là, en fait, que j'y arrive plus. Je quitte une fois la chambre de l'hôpital. Je descends. J'appelle mon généraliste. Je me mets en contact avec une sage-femme libérale pour le post-maternité. Parce que quand on sort, il faut un suivi. Et je veux pas que ce soit un suivi de PMI. J'essaye d'éloigner tout ce qui peut faire partie de l'ASE et de tout leur contexte à eux. Donc voilà, je prends tout en libéral, etc. Et quand je remonte, en fait, je vois ma fille avec mon petit-fils. Et je vois le téléphone en visio. Elle est en train de montrer mon petit-fils à Brice. Là, j'y arrive plus. En fait, je pète un plomb. Mais vraiment, je pète un plomb. Elle raccroche et je l'insulte, en fait. Dans le sens où je lui dis que c'est honteux, qu'elle s'est manquée de respect à elle et qu'elle a permis à ce mec de lui manquer de respect, mais qu'elle a pas le droit de manquer de respect à Calvin. Qu'à un moment donné, quand elle était enceinte et qu'il venait poser ses mains sur son ventre, il était quand même capable de l'envoyer se taper 10 clients qui lui giclaient dessus alors qu'elle était enceinte. Enfin, vraiment. Et j'utilise ces propos-là. Vraiment. Je suis hyper crue, hyper dure dans tout ce que je dis. Et je lui pose un ultimatum. Maintenant, c'est soit tu coupes le lien avec lui. Soit je quitte cette chambre et les services sociaux et toi et ton fils, vous vous démerdez en fait. Et en fin de compte, ce sera bénéfique puisqu'elle coupera le lien. Et ça se passera bien. À ce moment-là, ça se passe bien après, puisqu'elle fait des vraies dépositions, elle donne des informations qu'elle n'avait pas encore données, l'enquête elle est reprise par Argenteuil, donc le département compétent, elle m'enverra les nouveaux numéros de téléphone de Brice qui cherche à rentrer en contact avec elle, et donc du coup l'enquête avancera pour de vrai puisque Calvin est né en janvier. Et Brice rentrera en mandat de dépôt en mars. Et voilà. Donc du coup, le procès aura lieu du 26 au 30 mars. Et dès le début, c'est compliqué. Elle va quitter la salle d'audience une fois, deux fois. Elle est revenue, l'audience a commencé, elle est ressortie. Et le deuxième, troisième jour, c'est là où elle prend la parole. Le fait que ma fille prenne la parole, c'est vraiment quelque chose qui était fort, parce que c'était pas gagné tout au long de la préparation du procès et tout. Il a jamais été question qu'elle prenne la parole. Donc elle va au pupitre avec une voix, toute petite voix. Elle a du mal à poser des mots. Et la partie adverse est crapuleuse. Tellement bien qu'elle a fait afficher à l'écran de la salle des photos qu'on aurait dû censurer pour la conforter dans le sens où elle était consentante. Du coup, Assia va nous parler de toutes les fois où elle a dit non. Mais là, c'est pareil. On demande encore une fois de plus à la victime de prouver son non-consentement. C'est affreux. Mais jusqu'au bout, elle va y aller quand même. Et ça va plutôt bien se passer quand même. Franchement, ça va bien se passer. Et puis même elle est fière d'avoir pris la parole. Et je sens en fait que ça lui a fait du bien. C'était cool. Et en fait, il prend 12 ans. il prend plus que la peine demandée. Donc vraiment, c'est, pour moi, c'est satisfaisant, même s'il n'y a aucun chiffre qui me satisfera. Mais quand j'ai ma fille à côté qui me tient la main et que j'entends, et donc qu'elle entend, que oui, il est coupable. Aussi chef d'inculpation, il est coupable. Je sens sa main, en fait, me serrer un peu plus fort. Mais en même temps, ses épaules se relâchent, elle s'affaisse dans son siège. Il y a quelque chose qui se passe. Et je me dis que c'est cool, parce qu'elle a entendu cette reconnaissance de victime. Elle a entendu qu'il était coupable. Ça a été un moment important. Elle y a gagné de la fierté de s'exprimer, je pense, de l'estime aussi. Par contre, sur le long terme, c'est pas encore une réussite. Parce qu'elle avait rencontré un garçon au début où elle a accouché de Kelvin. Et en fait, ce garçon, c'est le sosie de Brice, physiquement. Pas le reste, hein, mais physiquement, c'est son sosie. Et au niveau de l'insertion professionnelle, en fait, il n'y a rien qui s'est fait. Elle avait tenté de reprendre le lycée, mais elle n'a pas accroché. Elle a tenté d'autres insertions, elle n'a pas accroché. Elle avait commencé un emploi, ça ne l'a pas fait non plus, puisque ce nouveau garçon ne voulait pas qu'elle parle avec d'autres garçons. Donc non, elle n'est pas du tout dans une insertion ni une reconstruction à ce niveau-là. De toute façon, elle est forte et elle a une capacité de survie et énorme. Dans tous les cas, elle l'a prouvé bien plus d'une fois. Donc voilà, juste patience. C'est la seule chose positive que m'a apporté la détention. La patience, c'est une vertu que je n'avais pas avant. Mais là, pour le coup, j'ai pas eu le choix, en fait. Vu la situation, comment elle était, et je n'ai pu être que patiente, en fin de compte. Et je pense que maintenant, oui, il faut l'être encore et encore. Mais ça viendra, hein, j'en suis sûre. J'attends.
C'était Ma fille, ma bataille, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Eric Lancien. Merci bien sûr à Jennifer et à Asia. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Sandrine Chaperon avec Zoé Coupé. Et notre stagiaire, c'est Hortense Martin. You should have heard me in the lounger telling people what they was, spitting out all sorts of sugar, just dying for a cause, cause, cause. A smile, a slither to my corner, on a face so true. My word is always in the ready, and I'll attribute that to you. I don't belong to anyone, I don't belong to anyone, I don't belong to anyone, I don't wanna belong to anyone. Song cut from second hand cloth, make the women feel young. I heard I'm serving as a soldier in the annex of the earth, threw himself before a